Dans ce journal, on fait un point sur la quatrième commission de l'ONU où l'État a répondu aux indépendantistes ce matin. Et puis on vous parle du défi d'une sportive hors norme avant de vous parler d'un concours de cuisine. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
La Polynésie bleue devant la quatrième commission de l'ONU.
Oui, l'audition de Moëtte Brotherson et des très très nombreux pétitionnaires qui ont fait le voyage jusqu'à New York est en train de s'achever. Et c'est d'abord le président du pays qui a pris la parole en commençant par remercier Emmanuel Macron pour avoir enfin permis aux représentants permanents de la France aux Nations Unies d'être présents. Un avant-propos mesuré, on l'écoute.
Il nous faut ouvrir de nouvelles voies ensemble, sous les auspices des Nations Unies. Je ne souhaite ni confrontation ni rupture sous ma gouvernance, mais bien des discussions ouvertes, franches et constructives entre partenaires. Il s'agit pour tous avant tout d'un exercice d'introspection et d'ouverture à l'autre.
Et Moëtte Brotherson a ensuite demandé des modifications dans la future résolution de la quatrième commission, qui n'a été modifiée qu'à la marge durant 10 ans. Il demande qu'elle reconnaisse la propriété du peuple Maori sur ses ressources naturelles sous-marines, en excluant toute extension de la liste des matières premières stratégiques sur lesquelles la France garderait la main mise. Il demande également que soient mentionnées les répercussions, y compris transgénérationnelles, des essais nucléaires, et qu'un nouveau paragraphe soit ajouté pour préciser le programme de travail éducatif sur la décolonisation. Il demande enfin évidemment que soit effacé l'appel du gouvernement précédent à effacer la Polynésie de la liste des pays à décoloniser, puisque le parti indépendantiste est parvenu au pouvoir. Et puis c'est l'ambassadeur français auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière, qui s'est exprimé. Une première depuis 10 ans donc, mais du point de vue de la France, rien n'a changé, malgré les dernières élections. Ce n'est pas la première alternance politique dans ce territoire, dit-il. Et si les relations entre l'État et la nouvelle présidence sont bonnes, l'ONU est priée de rester en dehors. La France change de méthode, dit-il, mais elle ne change pas de ligne.
La France siège aujourd'hui dans un esprit de dialogue pour rappeler une évidence. La Polynésie française n'a aucune place sur la liste des territoires non autonomes sur laquelle elle est inscrite depuis mai 2013. Aucun processus entre l'État et le territoire ne prévoit un rôle pour les Nations Unies. Et si j'interviens aujourd'hui devant vous pour acter un changement de méthode, c'est aussi pour réaffirmer l'absence de changement de ligne. La France continue à demander le retrait de la Polynésie française de la liste des territoires non autonomes.
Et ce sont ensuite plus d'une trentaine de pétitionnaires polynésiens qui ont pris la parole, avec, il faut le dire, beaucoup de répétitions. On notera tout de même l'intervention d'Oscar Temaru, qui a expliqué qu'il s'agissait peut-être de sa dernière intervention à New York et qui voudrait plus d'engagement et moins de langue de bois à l'ONU. Quelle est la position de la quatrième commission? J'exhorte la commission à assumer ses responsabilités. Alors que dit-il, la France anesthésie notre démocratie.
Et les élus marquisiens ont aussi plaidé leur cause.
Oui, les Hakaiki ne sont pas du voyage, mais ils ont envoyé une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Emmanuel Macron et Moëtte Brotherson sont également destinataires de ce courrier relatif à la reconnaissance juridique de l'archipel. Alors les maires y rappellent leur volonté de créer leur communauté d'archipel, l'actuelle communauté de communes n'assurant, je cite, pas la reconnaissance de l'existence juridique de notre archipel et n'offre pas les garanties constitutionnelles d'une collectivité territoriale. Dans ce courrier, les Hakaiki détaillent leur projet inspiré des 3 provinces de Nouvelle-Calédonie, un échelon institutionnel disposant de compétences particulière entre celle des communes et sous l'égide du gouvernement local. Un projet actuellement travaillé avec des juristes et qui comprend notamment le transfert de certaines compétences. On écoute le maire de Nuku'iwa.
Ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est le transfert de certaines compétences, comme le tourisme, l'agriculture, tout ce qui est compétences au niveau secteur primaire, sans compter, bien sûr, au niveau environnemental, culture et tout ça. Mais le plus important, bien sûr, c'est la gestion du domaine foncier, sachant quand même au niveau des Marquises, il y a quand même un peu plus de 60% de terres domaniales.
Voilà, Benoît Caotaille au sujet de cette lettre envoyée à l'ONU, une lettre dans laquelle un autre point est à souligner. S'il y a un référendum demandé en Polynésie par le Tawini, les Hakaiki demandent que les résultats des Marquises soient comptabilisés à part, car ils répètent ne pas vouloir entendre parler d'indépendance. Fin novembre, les maires des Marquises seront en métropole à l'occasion du Congrès des maires de France, un voyage durant lequel ils comptent bien faire du lobbying auprès des différentes instances de l'État.
Au volet justice, ce mardi, on vous parle du procès du père Sergio.
Oui, souvenez-vous de l'histoire de ce curé de la paroisse Sainte-Thérèse qui avait fait couler beaucoup d'encre. L'homme est accusé d'agression sexuelle sur un mineur de 17 ans et de corruption de mineur sur son cousin un peu plus âgé. C'était en juillet 2017. Alors le plus jeune était régulièrement couvert de cadeaux, VTT de marque, iPhone et même argent liquide. Le curé avait même sa photo en fond d'écran de ses téléphones et le serrait dans ses bras à la moindre occasion, même en présence des parents de l'adolescent qui sont des proches de la paroisse. Alors des faits que ne nie pas le père qui explique que l'adolescent était l'un de ceux sur qui il pouvait compter dans la paroisse et qu'il était méritant. Il va jusqu'à déclarer qu'il avait un amour incommensurable pour lui mais purement platonique. Sauf qu'un soir, dans un hôtel de la côte Est, le père Sergio aurait pratiqué une fellation sur l'adolescent qui était ivre et endormi. Une version que nie le prévenu même s'il avoue sa présence dans la chambre d'hôtel. Et malgré les questions du juge, de la procureure et de la partie civile, le prévenu campe encore sur sa position. Il reconnaît toutefois son homosexualité, circonstance aggravante, dit-il, pour un prêtre, et regrette simplement, selon lui, d'avoir été trop généreux. Le procès se poursuit cet après-midi avec l'audition des parties civiles.
Du sport et pour la bonne cause avec le jour J qui approche pour Alexandra Caldas.
Alexandra qui était ton invitée hier matin, Kevin, et après s'est traversée à la rame entre Moréa et Tahiti, c'était en 2017, puis Taha et Bora Bora en 2019, et bien elle a décidé de rempiler pour un nouveau challenge au Fénois. Mais cette fois-ci, la jeune métropolitaine qui est atteinte de mucoviscidose et greffée des deux poumons, elle s'est penchée sur trois disciplines. Samedi prochain, elle s'élancera à 7h de la pointe Vénus pour 50 km de vélo, 20 km de rame et 5 km à pied. Objectif, arriver au plateau de Vaitavere, une idée qui a germé après le succès d'une autre aventure sportive, déjà dans les Outre-mer, mais sur le sommet de l'océan Indien, on l'écoute.
Avec la réalisation du Piton des Neiges, ça nous a un peu fait le déclencheur de se dire, ah bah ok, on fait un défi avec trois disciplines, les trois disciplines que je maîtrise en quelque sorte, qui a fait du coup un raid qui ressemble à un triathlon en quelque sorte. Mais c'était une volonté de voir un projet plus gros et plus grand. Ça fait plus d'un an qu'on en parle de ce projet, ça fait quelques mois que je m'entraîne, on va dire, pour ce défi.
Et malgré un emploi du temps chargé, notamment en raison d'un temps de transport important pour aller travailler, la jeune femme se prépare donc depuis plusieurs mois. Elle alterne les entraînements par discipline. En revanche, l'enchaînement des trois sports, eh bien, ce sera une première samedi.
J'ai pas fait ça parce que physiquement, c'est difficile de le faire en fait. C'est pour ça que ça va être une grosse découverte samedi d'enchaîner ces trois disciplines. J'ai essayé de faire aviron, course à pied. C'est assez physique, mais c'est faisable. Ça va être au mental aussi un petit peu.
Et pour mener à bien sa barque, son vélo et ses baskets, Alexandra Caldas pourra compter sur ses deux piliers, son compagnon et son meilleur ami, installé de longue date au Fénois. Elle mise aussi sur le mana des 250 sportifs locaux qui vont se joindre à elle. Et parmi les convaincus, le président Moetei Brotherson, contacté sur les réseaux sociaux. Selon Alexandra, il a proposé trois choses, faire participer son ministère, faire un don et faire le même parcours à pied le même jour, mais à New York, on l'a dit, il est à l'ONU en ce moment. Et pour Alexandra Caldas, c'est donc un joli coup de projecteur sur la cause qu'elle défend. Avant la course, elle sera d'ailleurs en tournée dans des collèges et lycées pour parler maladies et dons d'organes. Un programme assez chargé auquel il faut ajouter une soirée caritative jeudi soir à 18h à l'Intercontinental.
Et le sport, ça donne faim. Et puis, bien sûr, les midis. Alors, on termine en vous parlant pâté en croûte.
Oui, Cédric Robin, le chef du restaurant Le Hay, a remporté hier soir au lycée hôtelier la deuxième édition du championnat de Tahiti de pâté en croûte. Une épreuve qualificative pour les mondiaux qui auront lieu à Lyon en 2024. Et cette année, 5 chefs du Fénois ont proposé leurs recettes personnelles à un jury d'experts selon les critères de ce championnat du monde. En invité d'honneur, Jacques et Mathieu Lagarde, deux frères finalistes de l'émission Top Chef, ils ont noté les chefs locaux. On écoute Mathieu.
On était très surpris et on est très contents d'être là pour juger nous-mêmes et on a vraiment, vraiment bien kiffé. En fait, on a eu le même coup de cœur, mais en même temps, on reste professionnel, donc on divise vraiment les choses. Et donc, c'est vrai que pour juger, c'est déjà très bien détaillé. Ça veut dire qu'ils déstructurent tout pour ensuite vraiment faire l'ensemble et pour qu'on puisse juger. Et c'est pas forcément notre goût qui compte, c'est leur travail. Et donc on a essayé d'être le maximum professionnel pour juger.
Voilà, c'est donc Cédric Robin qui a obtenu les faveurs du jury après l'épreuve de la dégustation, retransmise en direct dans un restaurant du lycée et devant près de 200 personnes. On écoute le grand vainqueur au micro de Vaitiare Perrer.
Je me suis concentré sur le goût uniquement de mon pâté, avoir une pâte bien cuite, une bonne gelée comme on demande au championnat du monde, il faut 1 cm de gelée dans le pâté. Et voilà, après. J'ai fait un pâté avec caille, foie gras, magret. Et dedans, je mets un petit peu de lard colonata et de la joue de porc confit que je passe un peu au fumoir avant. C'est tout. Simple. Juste des goûts bien assaisonnés.
Cédric Robin, qui avait aussi gagné l'édition précédente. Il participera donc au championnat du monde pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, il espère revenir avec le titre mondial. Voilà, Kevin, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Et le retour de l'actualité, ce sera à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup, Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
Et il y a eu pas mal de matchs ce week-end. On est revenu bien sûr sur les résultats. On a fait un petit débrief sur chaque match de samedi. On va bien sûr continuer avec les matchs de dimanche en présence de Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby. Yorana Gilles.
Yorana Kevin, Yorana à tous.
Comment tu vas aujourd'hui, veille de nouveaux matchs qui arrivent bien sûr? Ah non, pas veille, non, pardon, j'ai rien dit, c'est que jeudi, je crois.
Avant-veille.
Voilà, avant-veille, exactement. On reviendra d'ailleurs demain sur ce match Nouvelle-Zélande contre l'Uruguay, ça nous intéresse bien sûr. Et puis il y aura le match vendredi France-Italie, le match le plus intéressant pour terminer bien sûr les matchs de cette poule A, pour nous en tout cas. En attendant, on va revenir à dimanche.
Ben écoute, dimanche, tu me donnais un coup de cœur pour moi et comme de nombreux supporters, ça a été Afrique du Sud-Tonga, un match incroyable. Il y a eu 7 essais pour l'Afrique du Sud, 3 essais pour le Tonga et on a chaviré le Tonga, marqué même, les Tongiens ont marqué à 73e, ils ont fait chavirer le stade, ça a été un sacré match. Ils se sont bien défendus nos Tongiens, mais bon voilà, ça c'est une très belle équipe d'Afrique du Sud. On retiendra l'une des belles images, c'est que tous les joueurs se sont rassemblés en rond pour une prière commune et ça se respecte même si ça bataille pendant 80 minutes. Voilà, donc c'est un match extraordinaire en termes d'intensité et férocité. Et puis on a super apprécié.
On rappelle le score 49-18 pour l'Afrique du Sud contre les Tonga, 21-8 à la mi-temps, ce qui était déjà un large avantage pour l'Afrique du Sud.
Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, on connaît l'Afrique du Sud, une grosse équipe. On sait que des équipes comme le Tonga et autres, c'est très difficile. Mais donc, le quart de finale se rapproche. Mais avant, effectivement, il faut penser à ce France-Italie qui sera un huitième de